Aujourd'hui, nous recevons François Gaudu. François Gaudu est spécialiste du droit du travail. Il est agrégé de droit, docteur d'État en droit privé et également agrégé d'histoire. Il est, depuis le 1er octobre 1996, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais également actuellement aussi directeur du programme Travail à la direction de la recherche du ministère de la Recherche. Parmi des éléments de son parcours, je voudrais signaler qu'il a été l'un des fondateurs de l'université de Cergy-Pontoise, qu'il a été de 1992 à 1994 directeur de l'Institut d'études judiciaires et qu'il a été, entre octobre 1997 et juillet 1998, président du comité de pilotage des emplois des jeunes auprès du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Outre des articles qu'il a publiés dans différentes entrevues, je signalerai un ouvrage qui est paru aux éditions Dalloz en 1996 dans la collection Connaissance du droit et qui s'intitule précisément Le contrat de travail. Voilà, François Gaudu, maintenant je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat de 20 minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Merci. L'industrialisation avait donné naissance au droit du travail moderne. Est-ce que la nouvelle économie va lui donner la mort ? Le travail change et il est tout à fait naturel que le droit du travail change également. Mais il faut bien reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, cette affirmation est porteuse de plus d'inquiétude que d'espoir. Sans disparaître, est-ce que le droit du travail ne risque pas de devenir un droit d'élite réservé à des privilégiés ? Le dirigeant de société parvient à cumuler son mandat social avec un contrat de travail, pendant que le chauffeur routier ou le livreur de pizza sont artificiellement transformés en travailleurs indépendants. C'est ce qui conduit Gérard Lyon-Caen à écrire en 1990 « L'opposition entre travail non salarié et travail salarié n'est plus ce qu'on croyait qu'elle était, des faibles protégés et des forts sans protection ». Une tendance inverse apparaît en filigrane, des forts protégés par l'équivalent d'un droit social et des faibles qui sont souvent abandonnés à la liberté économique. Effondrement du droit du travail, c'est une autre formule du même auteur, ou du moins impuissance à régir les comportements réels. Qui d'entre nous n'a pas observé un jeune qui est contraint d'accepter un stage mal rémunéré, qui constitue en réalité un véritable travail, mais qui n'est pas reconnu comme tel ? Si le juge était saisi, souvent, il devrait dire que le stage constitue en fait un contrat de travail. Mais il ne le dira pas, il ne dira pas non plus ce qui est le droit, qu'il faut respecter le SMIC ou le salaire de la convention collective, parce que le jeune a besoin de nourrir son CV pour commencer sa vie professionnelle et que par conséquent, personne n'aura l'idée que le juge peut intervenir. L'inquiétude face au changement se comprend. Le modèle de droit du travail auquel les sociétés occidentales avaient adhéré après la Seconde Guerre mondiale reposait sur des croyances, et ces croyances sont assez profondément remises en question. La première croyance qui fonde notre système actuel, c'est la croyance au progrès. La charte de l'Atlantique, les textes fondateurs de l'ONU, mais aussi le programme du Conseil national de la Résistance, sont tous marqués par l'idée de progrès et d'un progrès qui doit se traduire, entre autres choses, par le renforcement du droit social. Ça paraît aujourd'hui très paradoxal, mais c'est des États-Unis que vient l'expression de sécurité sociale, plus exactement d'une loi du 14 août 1935, le Social Security Act. Deuxième croyance, très forte, c'est la croyance à la généralisation du salariat. Cette idée est alors une idée commune. C'est le point de convergence entre les thèses marxistes qui annoncent que le salariat éliminera progressivement toutes les formes de la petite entreprise, l'artisanat, le fermage, etc., et puis, d'autre part, les thèses managériales, tout un courant de pensée américain qui remarque que l'entreprise est de plus souvent dirigée, non pas par le propriétaire du capital, mais par des spécialistes salariés, par les managers. Puisque le salariat est l'avenir de l'homme, l'expression « droit du travail »,« labor law, Arbeitsrecht », finit par désigner le droit du travail salarié. Comme l'explique un précis de droit du travail qui date de 1965, au fur et à mesure que les instruments de production se concentrent entre les mains de groupements économiques puissants, le nombre de personnes qui deviennent au sens large des travailleurs subordonnés échangeant leur travail contre une rémunération, s'accroît sans cesse. Un jour viendra où toute personne physique aura la qualité juridique de salarié et où toute activité professionnelle sera régie par le droit du travail, les employeurs n'étant plus que des personnes morales. Chacun sera salarié et salarié d'une grande entreprise. Cette croyance constitue en effet également un point de convergence entre les thèses marxistes, c'est le caractère inévitable de la concentration du capital, et les conceptions économiques libérales qui soulignent la valeur des économies d'échelle. Dans ces conditions, dans les conditions où on croit à tout cela, l'inapplication partielle du droit du travail, qui a toujours été relevée par les auteurs, paraît alors de peu d'importance. Le droit du travail s'applique mieux à la ville qu'à la campagne, il s'applique mieux dans la grande entreprise que dans la petite, avec le progrès, avec l'exode rural, avec la concentration des entreprises, son application se fait plus assurée. Il a pour lui l'avenir. Et sur le fondement de croyances partagées, un statut du travail subordonné qui fait bénéficier le travailleur d'un emploi stable et d'une protection sociale contre les aléas de l'existence se met en place. Les procédés juridiques employés ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Chaque pays utilise ses instruments. Mais malgré la diversité des procédés, une certaine équivalence de résultats se constate. Si l'on prend les choses en 1965, la situation de l'ouvrier de Detroit aux États-Unis n'est pas si différente que cela de celle de l'ouvrier de l'automobile de Renault. Et l'idée d'emploi à vie, idée qui vient de l'industrie japonaise, en rend assez bien compte. Mais nous savons maintenant, d'une part, que l'emploi non salarié n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on annonçait, d'autre part, que la création d'emplois, dans des conditions économiques et technologiques nouvelles, se fait surtout dans des PME. Ainsi, les croyances communes sur lesquelles reposait le droit du travail sont remises en question, et avec elles, le modèle de l'emploi à vie. Et l'inapplication du droit du travail, qui a toujours été très importante, paraît d'autant plus inquiétante qu'elle ne peut plus être assimilée à un archaïsme ou à un retard, puisqu'elle correspond souvent à ce qui se fait dans les secteurs les plus modernes de l'économie. C'est ce qui permet de parler de crise du droit du travail. Est-ce que cette crise, on peut un instant l'imaginer, se trouve aujourd'hui à son terme, avec le changement possible de période économique, avec l'amélioration de la situation, et en particulier la reprise des créations d'emplois? Est-ce qu'on peut discerner les éléments d'un nouvel équilibre? Il est assez difficile d'envisager les voies d'évolution possibles, ce qui est un peu mon but, sans commencer par examiner les modalités de la remise en question du droit de la période précédente. Et donc je vais commencer par essayer de voir avec vous comment le droit de la période précédente a été remis en cause, non seulement en France, parce que la situation française évolue naturellement en fonction aussi de tout ce qui se passe à l'étranger, de toute la contrainte internationale, mais en France et dans d'autres pays comparables. Pour l'essentiel, l'évolution est commune aux pays occidentaux, même si les procédés par lesquels elle se réalise varient. Toutefois, la situation française présente des spécificités, des particularités, et il est aussi utile de mettre celles-ci en relief. D'abord, les évolutions qui sont communes aux pays occidentaux. On peut juger du chemin que nous avons parcouru, parfois d'après la position que prennent les autres. J'ai reçu, il y a quelques semaines, un groupe de dirigeants et de syndicalistes d'une grande entreprise japonaise dans mon université. Ils effectuaient un voyage de formation en Europe. Et après une réunion de travail, le chef de la délégation japonaise a conclu en disant « Le Japon se trouve aujourd'hui au point dans la situation où vous vous trouviez en 1974. » C'est-à-dire que l'entrée dans une période de crise amène les entreprises à changer leur politique de gestion de la main-d'œuvre. Non seulement elles vont licencier, mais elles vont aussi modifier leurs pratiques d'embauche de façon à ne rémunérer la main-d'œuvre que quand elles en ont strictement besoin. C'est la remise en question de l'emploi à vie, ce que les Japonais commencent à faire, ce que nous avons fait il y a plus longtemps. Cette remise en question, elle passe par des chemins différents suivant les pays, mais l'objectif est souvent le même. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, la stabilité de l'emploi reposait essentiellement sur la puissance des syndicats. Parce que dans ces pays, la loi ne protège pas, presque pas le salarié. Mais par contre, elle aide, ou du moins elle aidait le syndicat à créer un rapport de force qui lui permet d'imposer à l'employeur, par la négociation collective, mais à l'issue d'âpres conflits, des conditions d'emploi. Et donc, pour déréglementer en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, Il n'est pas nécessaire de réformer le contrat de travail. Il suffit d'affaiblir le pouvoir syndical. Et c'est ce que feront Ronald Reagan et Margaret Thatcher au début des années 80. Cet objectif d'assouplissement des conditions d'emploi, il ne peut pas être atteint de la même façon en Europe continentale. Le débat ne peut pas être tranché de façon aussi nette. Mais malgré tout, deux tendances se manifestent à peu près partout, du nord au sud de l'Europe. Première tendance, le droit du licenciement économique, qui n'était plus guère utilisé, on ne licenciait plus, du moins on ne licenciait plus pour motif économique, presque plus, sauf dans quelques branches très précises, pendant les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le droit du licenciement économique revient au premier plan. Et entre autres choses, pour faciliter les grands licenciements économiques, on va partout mettre en place des systèmes de pré-retraite. Deuxième tendance, le contrat à durée indéterminée et à plein temps, le contrat stable, traditionnel, avait presque éclipsé le contrat à durée déterminée. Des mesures d'assouplissement interviennent. Et dans tous les pays, même s'il y a des décalages dans le temps, en France, loi de 72 pour le travail temporaire, loi de 79 et ordonnance de 82 pour le contrat à durée déterminée, une autre ordonnance de 82 pour le travail à temps partiel. En Allemagne, on a une loi quelques années après, en 1985, loi sur la promotion de l'emploi, qui assouplit le régime du contrat à durée déterminée et du travail à temps partiel. Même chose en Espagne en 1984. Il n'y a pas de déréglementation générale en Europe continentale, mais il n'en reste pas moins que l'emploi à vie ne concerne plus qu'une part décroissante de la population. Et même lorsqu'on en bénéficie, même lorsqu'en fait rien ne vous a touché, on n'y croit plus. D'ailleurs, les règles applicables aux salariés deviennent si diverses qu'il devient difficile de se faire une image nette de l'avenir. Et c'est la deuxième tendance commune aux pays comparables à la France que je voudrais maintenant illustrer, la diversification des règles applicables aux salariés. Dans la période précédente, disons depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1974-75, le droit du travail manifestait une certaine tendance à l'homogénéisation. Bien sûr, il y avait des différences, ouvriers, employés, cadres. Toutefois, même aux États-Unis, où la négociation collective est une négociation collective de branche, d'entreprise, pardon, donc on négocie pas au niveau de toute une profession, mais dans telle ou telle entreprise, même aux États-Unis, les syndicats, en coordonnant leurs efforts, parvenaient à imposer une certaine standardisation des conditions de travail. Au niveau de la branche professionnelle, au niveau de toute l'automobile, des télécommunications, du pétrole. Dans cette période, on pourrait dire que la tendance est à travail égal, droit égal. Et les entreprises ont aussi souvent intérêt à la standardisation des conditions de travail, surtout en période de manque de main-d'œuvre, parce que cette standardisation permet d'égaliser les conditions de la concurrence entre elles. Et c'est pourquoi en Europe, les entreprises ont accepté alors de négocier avec les syndicats des conventions de branche qui couvrent toute une profession. Homogénéisation, autre exemple, lorsque des progrès sont réalisés dans une entreprise, importante, symbolique, la quatrième semaine de congés payés chez Renault, la loi intervient dans un second temps pour généraliser l'avantage à tout le monde. Autre exemple, enfin, le droit de grève, qui était, avant la Deuxième Guerre mondiale, refusé aux fonctionnaires, leur est reconnu à partir de 1946. Mais ce qui brouille les perspectives, c'est que cette tendance au rapprochement des statuts, elle s'est maintenant inversée, et depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Je crois qu'il y a une première raison, qui est sans doute la raison majeure, c'est la diversification des types d'entreprises. On ne croit plus que la grande entreprise industrielle va tout éclipser. Et on sait que vont coexister pendant longtemps, pendant des décennies, l'entreprise artisanale, l'entreprise taylorienne, le travail à la chaîne, la grande entreprise de service, qui a besoin d'une main-d'œuvre abondante et bon marché, l'entreprise de haute technologie, et puis la start-up de la nouvelle économie. Les besoins des entreprises ne sont pas les mêmes et il est donc beaucoup plus difficile qu'avant de concevoir un statut standardisé du travail. Le droit qui conviendrait aux start-up gênerait les autres entreprises. Et même lorsque les entreprises ont des besoins comparables, la compétition entre elles est si forte qu'elles n'arriveront plus à renoncer au fait d'essayer de se procurer une convention un peu plus favorable que celle de la voisine. Auparavant, dans certains pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la négociation entre les syndicats et le patronat était à peu près exclusivement, surtout, une convention de branche au niveau de toute une profession. On assiste à partir du milieu des années 70, à l'inverse, à un développement de la négociation d'entreprise. Le droit applicable aux salariés, son statut, varie d'une entreprise à l'autre, il varie de plus en plus. Et comme les statuts se diversifient, les entreprises sont tentées de jouer sur cette diversité. Par exemple, une entreprise transforme certains services en filiales, filiales autonomes, et par là même, les salariés de cette filiale sont soustraits à l'application de la convention collective de la société mère. C'est l'actualisation d'une autre pratique ancienne. Lorsqu'on veut éviter d'appliquer une convention collective trop favorable à du personnel de nettoyage, des gardiens, etc., eh bien, on passe en sous-traitance et, entre autres résultats, on fait échapper ce personnel, on le place en dehors du champ d'application de règles qui sont jugées trop favorables. La diversification des statuts collectifs se double souvent d'une individualisation de la relation de travail. Non seulement les règles varient d'une entreprise à l'autre, et même dans une entreprise, puisqu'on fait travailler côte à côte les salariés de l'entreprise et puis des sous-traitants et différents intervenants extérieurs, mais de surcroît, chaque salarié, de plus en plus, bénéficie ou souffre d'un sort particulier. Cela veut dire que le contrat de travail n'est plus standard. On introduit dans le contrat de travail des clauses particulières, clauses de mobilité, clauses de polyvalence, clauses de non-concurrence, mais aussi, d'ailleurs, on introduit dans le contrat de travail des clauses favorables, comme les clauses de garantie d'emploi. L'employeur s'engage par le contrat à ne pas licencier un salarié pendant une certaine durée, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Chacun, de plus en plus souvent, va à son pas. Dans la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, la loi de 35 heures, on prévoit un système d'individualisation de l'horaire annualisé. Dans ce système, sans doute, ça sera parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, dans ce système, l'horaire collectif de travail s'efface. Essor des règles d'entreprise au détriment des règles de branche, essor du contrat individuel au détriment de la règle collective, la diversification monte encore d'un cran avec la résurgence du travail indépendant. Bien sûr, ceux d'entre vous qui connaissent les statistiques de l'emploi savent que le nombre total des indépendants continue à décroître en France. Mais c'est simplement une conséquence de la poursuite de l'exode rural. En revanche, dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie, notamment dans les services, il y a un certain regain du travail indépendant. Il est vrai qu'il y a parfois de la fraude. Ce sont les camionneurs ou les livreurs de pizza dont je parlais au début, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une évolution des façons de travailler. Et comme les non-salariés sont souvent, malgré tout, en situation de dépendance économique, la question d'un droit du travail, d'un droit social applicable aux non-salariés, vient à se poser. La diversification des règles, il ne faut pas le dissimuler, est aussi portée par la transformation des aspirations des salariés, qui sont souvent à la recherche d'une individualisation positive de leurs conditions. Et c'est pourquoi, par exemple, les syndicats d'entreprise, lorsqu'ils sont en présence d'une direction habile, ont depuis longtemps beaucoup de mal à refuser de négocier l'annualisation des horaires, même s'ils y voient par ailleurs des inconvénients. Les salariés recherchent souvent de nouvelles marges de manœuvre pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, d'autant plus que dans la population, la part des ménages biactifs, des ménages dont les deux membres travaillent, est de plus en plus importante. Et je crois que ça explique la popularité de la réduction de la durée du travail. La loi de 35 heures, dont on a tant dénoncé le caractère de loi uniforme, dans l'application, se traduit concrètement par l'annualisation des horaires. Et, en fait, peut-être s'inscrit dans la tendance à la diversification des règles, à la diversification des statuts. Avec des travailleurs de mieux en mieux formés, avec de nouveaux modes d'organisation qui sont rendus possibles, entre autres, par le développement des technologies de l'information et de la communication. Le modèle hiérarchique d'organisation, dit-on, est supplanté par le travail en réseau. Est-ce qu'il y a toujours place pour la notion de subordination? C'est là simplement une question, ce n'est pas vraiment une évolution commune, mais cette question se pose à peu près dans tous les pays. Est-ce qu'on doit conserver la notion de subordination? Notion qui, dans de nombreux pays et en France, constitue le critère du contrat de travail. À l'heure actuelle, si je fais travailler une personne, si je la fais travailler en dirigeant son travail, c'est du travail subordonné. Si je la paie, je n'ai pas le choix. Il faudra bien admettre que c'est un contrat de travail. Il faudra donc que je respecte l'ensemble des règles du droit du travail. Le travail subordonné, travail rémunéré subordonné, ne peut avoir lieu que dans le cadre du contrat de travail. Si j'essaye de faire autrement, très vraisemblablement, je serai rattrapé par l'URSSAF, qui me demandera de payer des cotisations sociales, et je perdrai le premier procès venu. Je n'ai aucune chance de gagner. La subordination est le critère du contrat de travail. On ne peut pas faire travailler un travailleur subordonné, en principe, en dehors du contrat de travail. Est-ce que cette notion est dépassée ? Dépassée parce que les salariés sont plus formés, plus autonomes, que tout est plus individualisé. En réalité, il me semble, mais ça se discute, qu'il y a de bonnes raisons de penser que le droit du travail continuera à utiliser la subordination comme critère du contrat de travail. D'abord, parce que l'entreprise traditionnelle, je viens de le dire, conserve et conservera une place importante dans l'économie autant qu'on puisse le prévoir. Autre raison pour penser que la subordination a toujours un rôle à jouer, la combinaison des nouvelles technologies et de l'individualisation de la relation de travail fait peser sur le salarié des contraintes nouvelles. Qu'y a-t-il de plus subordonné qu'un salarié qui est d'astreinte, qu'un travailleur qui est d'astreinte pendant son temps de repos et qui doit répondre au bip ou au téléphone portable? Avec l'annualisation, dans le système juridique français, l'horaire de travail devient en pratique souvent imprévisible pour le salarié, puisque d'après la loi qui vient d'être votée, l'employeur peut modifier l'horaire avec un préavis de 7 jours ouvrés. Donc je ne crois pas que la subordination soit morte, mais peut-être est-ce une spécificité française de voir coexister une loi très présente, très développée, et un pouvoir patronal très fort. Je voudrais maintenant aborder, parmi les remises en question, celles qui paraissent des spécificités françaises. En quoi l'évolution du droit du travail français diffère-t-elle de celle des pays comparables ? En France, il n'était évidemment pas possible de déréglementer à la hussarde, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. D'abord parce que l'opinion française, sauf peut-être pendant une brève période, a toujours été défavorable à la déréglementation. Et ensuite, parce qu'il est techniquement beaucoup plus difficile d'abroger un système complexe de lois que de déstabiliser les syndicats à travers deux ou trois conflits bien ciblés, comme ça a été fait aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Toutefois, entre les deux pôles que représentent, d'une part, les pays anglo-saxons, et puis, d'autre part, la France, on pourrait dire, la France et d'autres pays latins. Le pôle du tout syndicat, c'était le système anglo-saxon, tout le droit du travail vient du pouvoir du syndicat, et le pôle du tout État, presque toute la protection des salariés vient du Code du travail. Entre ces deux pôles, il existe un ensemble de pays qui ont ce qu'on pourrait appeler un système mixte, l'Allemagne, la Hollande, les pays scandinaves, dont la législation est assez développée, ces pays combinent un degré assez élevé de législation, avec un fort développement de la négociation collective et avec des formes diverses de co-gestion, de co-décision. Dans ces pays, dans les pays à système mixte, par exemple en Allemagne en 1984 et une deuxième fois au début des années 90, en Hollande, au Danemark, dans ces pays, il a été possible de négocier les adaptations de façon bipartite, syndicat-patronat ou tripartite, syndicat-patronat-État. Pourquoi ? Est-ce que ce qui a été possible au nord de l'Europe n'a pas été possible en France ? Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les syndicats français et le patronat sont trop faibles. Les syndicats sont faibles parce que, j'en reparlerai, le taux de syndicalisation est très bas. Et, on ne le dit pas souvent, mais les organisations patronales sont aussi très faibles parce qu'elles n'ont pratiquement aucune autorité sur leurs adhérents, c'est-à-dire sur les chefs d'entreprise. Et quand on est faible, on hésite à l'affrontement, et la négociation, c'est toujours un peu l'affrontement qu'ont fait les grèves allemandes des années 80. En raison de leur faiblesse, et pour d'autres raisons aussi qui tiennent à la tradition française, les partenaires sociaux, y compris le patronat, ont l'habitude de laisser à l'État les choix difficiles. Lorsque la crise a commencé, le gouvernement, c'était à l'époque celui de M. Barre, a donc dû trouver d'autres solutions que l'adaptation négociée ou la déréglementation. Et il s'est tourné vers les deux techniques de l'exonération et de la dérogation. On conserve le droit en vigueur, mais c'est une spécificité française. Il est possible de s'en affranchir par des exonérations et des dérogations. Exonération et dérogation, il faut expliquer un peu, bien sûr. Exonération de quoi ? De charges sociales. Puisqu'en France, le salaire est lourdement chargé. Si l'employeur verse 60 francs de salaire horaire, en arrondissant grossièrement, ça va lui coûter environ 100 francs. Avec les charges. Et il est donc très intéressant pour lui, naturellement, d'être exonéré de charges, de ne payer que 60 francs. Dérogation à quoi ? dérogation aux règles du droit du travail. Par exemple, le contrat à durée déterminée est réservé à l'accomplissement de tâches non durables, c'est la loi. Mais on peut dire, et on dit souvent, par dérogation à ce principe, si vous embauchez un jeune que vous formez, si vous embauchez un chômeur de longue durée, par dérogation, vous pourrez les affecter sans aucune limitation à un poste permanent. Autre dérogation, plus forte, on peut dire, si vous recrutez des jeunes en difficulté, vous pourrez les faire travailler sans contrat de travail. C'est le travail subordonné sans contrat de travail. C'est une contradiction dans les termes, au regard de ce que je viens d'expliquer auparavant. Mais c'est possible si la loi le dit. La loi peut toujours écarter un principe, sauf dans des domaines assez limités. Et nous en avons eu l'exemple avec les stages-bars, les SIVP, les TUC des années 80, et il existe encore aujourd'hui des formes de stages sans contrat de travail que le service public de l'emploi gère. L'exonération de charges et la dérogation, l'incitation financière doublée d'une incitation juridique, ont constitué l'un des principaux ressorts de la politique de l'emploi depuis 1975. Or, cette combinaison, qui a été imaginée pour inciter à l'embauche, est devenue aussi l'un des principaux instruments de la réduction de la durée du travail. La durée légale a été abaissée par la loi, mais comme on veut faire baisser la durée du travail réelle et non pas seulement obliger les employeurs à payer plus cher pour les heures supplémentaires, comme on veut essayer d'obtenir un effet sur l'emploi, on dit « si vous réduisez la durée du travail dans l'entreprise, vous paierez moins de charges sociales, c'est l'exonération, et vous pourrez, à l'occasion de la négociation avec le syndicat, annualiser les horaires, c'est la dérogation. Parce qu'à défaut d'accord collectif, il faudrait continuer à respecter les règles issues des décrets de 1936 qui ne sont toujours pas abrogées, règles qui définissent un horaire hebdomadaire. Par dérogation, l'employeur peut s'affranchir du modèle légal de l'horaire hebdomadaire. La combinaison de l'exonération et de la dérogation est efficace. Elle donne des résultats, mais elle peut favoriser, sans le vouloir, un certain essor de l'illégalité. Et l'essor de l'illégalité dans les relations de travail me paraît être une autre spécificité française. Nous avons l'habitude, du moins nous avions l'habitude, de nous moquer du travail au noir des Italiens. Et je suis bien convaincu que le droit du travail italien ne s'applique vraiment que dans la grande entreprise. Mais la France a son lot d'illégalités. Et il est frappant de constater que celle-ci se développe surtout dans les deux domaines où la technique de la dérogation a pris une importance majeure. Premier de ces domaines, le travail atypique, le contrat à durée déterminée, le travail temporaire, le stage. Deuxième, la durée et les horaires de travail. S'agissant du travail atypique, la vérification de ce que je suis en train de dire est plus facile que la mesure. La vérification. Je reçois dans un diplôme dont je m'occupe un DRH qui dirige un important établissement équipementier automobile. Et il explique à mes étudiants qu'il a obtenu de l'agence d'intérim locale qu'elle s'installe à la porte de son usine afin de faciliter la vie des intérimaires qu'il emploie pendant plusieurs années. Alors mes étudiants lui disent que ça doit être illégal puisque le travail temporaire est limité à 18 mois. Et il hausse les épaules. Il le sait bien sûr, mais ça n'a aucune importance. Personne ne s'en plaint. On ne sait pas combien, parmi les millions de contrats atypiques conclus chaque année, sont irréguliers, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Même constat en ce qui concerne le respect de la réglementation des horaires de travail. On sait qu'une grande entreprise de haute technologie a été verbalisée à grande échelle il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an, à propos du temps de travail des cadres. Mais plus largement, l'inspection du travail a pu relever, lors d'une étude menée en région parisienne il y a quelques années, un très fort taux de violation de la réglementation de la durée et des horaires de travail. Je veux dire, de la réglementation de la durée maximale de travail, de la réglementation des heures supplémentaires, des repos, etc. Et ce qui attire l'attention, c'est que les irrégularités ne concernaient pas particulièrement les entreprises qui avaient annualisé les horaires. À l'époque, elles étaient encore assez peu nombreuses. Les irrégularités concernaient tout le monde, tous les types d'entreprises. Tout se passe comme si la dérogation faisait tache d'huile. Ceux qui n'en bénéficient pas se l'octroient. L'annualisation n'est pas le diable, et elle se développe dans tous les pays pour des raisons objectives. En revanche, il est permis de se demander si la généralisation de la technique de la dérogation pour réaliser cette annualisation, comme méthode générale d'adaptation du droit du travail, n'a pas pour effet de dévaloriser la règle de droit. Est-ce bien d'ailleurs le rôle des syndicats que de négocier des dérogations ? Et je voudrais pour en terminer avec ce point des spécificités françaises, dire un mot du rôle des syndicats. En Allemagne, en Suède, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les syndicats cherchent à être forts pour obtenir des concessions dans le cadre de la négociation collective. Pour être fort, à leur avis, il faut avoir de l'argent, parce que l'argent sert à financer des grèves. Dans ces pays, lorsque les salariés font grève, les syndicats les indemnisent, et donc des adhérents. Pour attirer les adhérents, et des adhérents qui payent, qui cotisent, le syndicat a naturellement tendance à favoriser ces derniers par rapport aux non-syndiqués. Par exemple, en droit allemand et en droit belge, la convention collective ne s'applique qu'aux syndiqués. Mais en fait, elle s'applique à beaucoup de monde, puisque le taux de syndicalisation est très fort. En France, vous savez que les syndicats ont été marqués par une tradition anarcho-syndicaliste, le mythe du grand soir. Ils ont souvent adopté une position millénariste. Deux d'entre eux ont encore pour objectif statutaire l'abolition du salariat et du patronat. Ils ont prétendu incarner l'intérêt de l'ensemble de la classe ouvrière, voire l'intérêt général. Le fait d'être syndiqué ne procure aucun avantage, c'est l'inverse. Et on pourrait dire que les syndicats cherchent d'ailleurs plus des croyants que des adhérents. Aussi, y a-t-il peu de syndiqués ? La grève est regardée comme une liberté publique, plus que comme une arme. Et comme les syndicats n'ont pas d'argent pour la financer, ils n'ont jamais vraiment cherché à en avoir en France, la grève constitue dans le secteur privé une arme très peu efficace. Aucun syndicat français ne serait capable d'organiser les grèves de 2 mois qui sont organisées aux États-Unis, en Allemagne ou dans les autres pays que j'ai cités. Lorsque les idéologies qui soutenaient les syndicats se sont effondrées en France, ceux-ci se sont considérablement affaiblis. Pour donner un ordre de grandeur, je me trompe certainement à la virgule, mais c'est à peu près ça. En France, le taux de syndicalisation dans le secteur privé doit être de 5 ou 6%. Il est aux États-Unis de 13%. En Angleterre, sans doute, aux alentours de 30%. En Allemagne, au-dessus de 50%. En Suède, au-dessus de 90%. La France est un pays atypique au regard du taux de syndicalisation. Nous sommes le pays développé qui a le plus faible taux de syndicalisation dans le secteur privé. C'est pour renforcer ces syndicats si faibles que la loi de 39 heures, dès 1982, leur a permis de concéder des dérogations. Mais peut-être ce cadeau était-il un cadeau empoisonné. En effet, lorsque le syndicat négocie avec l'employeur une dérogation à la loi, est-ce qu'il ne se trouve pas un peu dans la position de la tortue qui vend sa carapace ? Le syndicat peut autoriser l'employeur à écarter une règle contraignante. Donc l'employeur a besoin de négocier avec lui. Il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'accords à propos de la négociation des 35 heures, puisque c'est le moyen pour l'employeur d'obtenir l'annualisation. Mais une fois la négociation conclue, l'employeur n'a plus rien à dire au syndicat, et celui-ci revient à sa situation de faiblesse initiale. Curieuse situation que celle du syndicat français, qui vit assez largement de fonds publics et qui consacre une bonne partie de son activité à autoriser des dérogations aux droits que l'État a mis en place. Au regard de ses financements et de la nature des prérogatives qu'il exerce, est-ce qu'il s'agit encore d'une organisation privée ou pas plutôt d'une sorte d'agence, d'un démembrement de l'État sur le mode américain ? On peut quand même constater qu'avec une quinzaine de pages, complétées par la négociation collective, à comparer à notre centaine de pages dans le Code du travail, sans compter les décrets de 36 et les circulaires, avec une quinzaine de pages, la loi allemande de 1994 parvient, c'est une loi sur le temps de travail, parvient à protéger aussi bien les salariés que la loi française, et il est quand même plus sain de négocier pour ajouter à la loi que pour y retrancher. Les systèmes mixtes, ceux qui combinent un degré important de législation avec un fort développement de la négociation collective ou avec d'autres procédés de contrôle social comme la codécision, les systèmes mixtes sont ceux qui ont le mieux résisté à la crise, car la loi et le contrôle social se prêtent mutuellement appui. Ils s'appuient l'un sur l'autre. L'application de la loi est relayée dans l'entreprise par l'implantation syndicale ou par les pouvoirs des représentants du personnel. Par exemple, l'équivalent allemand du comité d'entreprise, le Betriebsrat, dispose d'un droit de veto théorique sur l'embauche. Voilà le contrôle social, parce qu'il est très difficile, si on doit, mois après mois, soumettre ses décisions à des élus qui peuvent les bloquer si elles sont illégales, il est très difficile, dans ces conditions, de bafouer durablement tout un pan de la législation. De son côté, la loi protège le syndicat contre les coups de boutoir qui pourraient chercher à le déstabiliser. Les voies d'évolution du droit du travail doivent être analysées en tenant compte de ce constat. Les voies d'évolution, elles sont diverses. Il y a plusieurs lignes d'évolution concevables qui dépendent des décisions qui seront prises. Et c'est pourquoi il convient d'envisager des risques aussi bien que des raisons d'espérer. Je me rends bien compte qu'en présentant les choses ainsi sous le jour de risques et de raisons d'espérer, je me départis un peu de la position neutre de l'analyste. Les risques, la déréglementation n'est plus très crédible. Lorsque le MEDEF revendique un nouveau contrat de travail, il sait qu'il le fait après l'accord cadre européen du 18 mars 1999, signé par l'ensemble du patronat et des syndicats européens, accord qui stipule « les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail ». Voilà qui limite la portée de son ambition réelle. Plus qu'une déréglementation radicale, c'est la stagnation du droit social européen qu'il faut craindre. Et tout spécialement cette forme de stagnation qui serait dissimulée par quelques progrès dans le domaine de l'application des droits fondamentaux, des droits de l'homme, pour dire vite. En articulant cela, je sais que certainement je vais heurter ce que pensent certains d'entre vous, et pourtant, il me semble que c'est vraiment ce risque qu'il faut signaler. L'hypothèse est inspirée par l'exemple américain récent. Lorsqu'on ouvre une revue de droit du travail américaine, on est aussitôt frappé par la place que prennent les décisions de justice et les commentaires relatifs à la discrimination. Et bien entendu, on comprend que la lutte contre la discrimination revêt aux États-Unis une importance de premier plan. Par exemple, au beau jour du droit du travail, dans certains secteurs de l'industrie, par exemple l'automobile, un accord non écrit entre syndicats et patronats réservait la stabilité de l'emploi aux blancs. Il fallait en effet 3 mois d'ancienneté pour bénéficier de la convention collective et, ça n'était écrit nulle part, mais en pratique, les Noirs, à ce qu'on raconte, étaient licenciés toujours le 89e jour. C'est précisément parce que les discriminations ont été si fortes aux États-Unis que tout un pan de la législation très dynamique s'est construit à ce propos depuis la loi sur les droits civils de 64. Et on a maintenant toute une série de textes sur la discrimination en raison du sexe, de l'âge, de l'état de grossesse, du handicap, etc. Tout cela était évidemment indispensable, mais il n'empêche que la lecture des revues américaines laisse un sentiment de malaise. On voit bien que là où un salarié français se plaindrait tout simplement d'un licenciement infondé, le salarié américain n'a pas vraiment de recours juridique. Et dans la majorité des entreprises, il n'a pas de syndicat non plus. Alors, que fait-il ? Il va voir un avocat quand il n'est pas content de son employeur et il utilise le moyen qu'il a. Il se plaint, s'il le peut, de la discrimination. J'ai aujourd'hui cherché à consulter quelque chose sur des sites officiels américains. J'ai trouvé une série d'articles sur le point très important suivant. Est-ce que l'obésité est un handicap ? Parce que si c'est un handicap, alors si on est renvoyé parce qu'on est trop gros, on peut dire que c'est une discrimination et faire jouer la loi, etc., etc. Bon, très bien. Mais est-ce que la prolifération du contentieux de la discrimination n'est pas plutôt un signe pathologique qu'un signe de santé du droit du travail américain ? Le droit du travail américain ne s'est pas remis de l'affaiblissement des syndicats. Et de façon très apparente, le recours aux lois sur la discrimination est souvent un recours par défaut. On se sert de ça parce qu'il n'y a rien. Mais si on admet cette idée, on doit admettre aussi, par analogie peut-être, que la multiplication des actions en France contre les employeurs pour harcèlement moral n'est pas non plus, même si elles sont nécessaires, un signe de santé du droit du travail français. Est-ce que le harcèlement moral, ça ne traduit pas un trop faible contrôle social dans les entreprises privées ? Imaginons que le droit du travail européen demeure ce qu'il est, peu entraînant, même s'il est plus utile qu'on ne le dit souvent. Imaginons que le droit français et le droit anglais, chacun avec leur travers, ne connaissent aucun progrès. Imaginons, à défaut de progrès, la France et l'Angleterre joueraient alors un peu le rôle de cheval de Troie, imaginons que les droits sociaux des pays du nord de l'Europe soient déstabilisés par l'internationalisation du marché des capitaux, la transformation du comportement des actionnaires, par exemple des fonds de pension, qui n'acceptent pas facilement que les équipes dirigeantes des entreprises passent des accords de moyen terme avec les représentants du personnel. Imaginons que l'application des principes de la corporate governance mette en péril la cogestion allemande et les diverses formes nordiques de négociation sociale. Une partie de la classe dirigeante allemande prend ses distances en ce moment avec la cogestion, la codétermination, sous la pression de l'évolution de l'économie. Il se pourrait très bien que le droit du travail européen stagne ici, s'affaisse dans d'autres endroits, sans que l'on s'en aperçoive, parce que dans le même temps, on aura développé, comme on l'a fait aux États-Unis, le pan de la législation qui concerne la lutte contre la discrimination et plus largement les droits fondamentaux, les droits de l'homme. Il ne faut pas méconnaître l'importance de l'action de l'Union européenne pour promouvoir l'égalité entre les sexes. C'est un apport évidemment très utile et sans l'Union européenne, certainement la France n'aurait pas accompli certains progrès qu'elle a faits. Mais d'autre part, le principe de non-discrimination, c'est un principe indiscutable, indispensable, mais il gouverne l'ensemble de la vie sociale. Il correspond très bien à l'image du marché équitable. Ça n'est pas un principe de droit du travail. À quoi bon d'ailleurs le principe de non-discrimination si le travailleur non-discriminé n'a aucun droit ? Le risque, c'est qu'on soit incapable de s'entendre sur le noyau dur du droit du travail. Par exemple, sur le salaire minimum, sur la négociation collective ou sur la place des salariés dans la société européenne. Et que le droit de la discrimination, en somme, il s'agit de règles défensives qui permettent d'éviter certains abus, que le droit de la discrimination devienne une sorte de législation par défaut, comme aux États-Unis. Et puis, il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. Et sans doute, le droit du travail doit-il maintenant se garder d'une forme de néo-paternalisme. Le droit du travail a pour fonction première de régler les rapports entre des travailleurs et des travailleuses bien formés et en possession de tous leurs moyens, et des entreprises qui ont besoin de leurs services pour gagner de l'argent. Le droit du travail, ça n'est pas la cour des miracles, ça n'est pas, comme on l'a dit, le droit des accidentés de la vie. Bien sûr, le droit du travail protège les faibles, mais s'il y a un droit du travail, c'est parce que les travailleurs sont forts. Le droit du travail traduit le fait que les salariés échappent à leur situation de faiblesse individuelle en se groupant. Et puis, comme les travailleurs nouent entre eux des rapports de solidarité, le droit du travail engendre des dispositions en faveur des faibles, des malades, des travailleurs âgés, des handicapés. Ces dispositions sont très importantes, mais elles sont un sous-produit. Si le droit du travail se contente à parler des faibles, des personnes qui sont en position de quasi-inactivité économique, ça n'est plus un droit du travail, en réalité. Pour que les plus faibles aient des droits, il est d'abord nécessaire de reconnaître des droits à chacun. On trouve quelques raisons d'espérer. Après les risques, il faut maintenant que j'essaye de parler des facteurs d'espérance. D'abord, dans un rapport remis par Alain Supiot à la Commission européenne et publié en 1999. Le rapport Supiot a été élaboré par un groupe d'experts européens. Il s'appuie sur le constat évoqué précédemment, constat qui porte d'abord sur le développement de phénomènes de précarité, de l'extériorisation de l'emploi, la sous-traitance, etc. Et par voie de conséquence, qui souligne la perte de portée des techniques qui assurent classiquement la stabilité de l'emploi. Le régime traditionnel du travail ne permet plus, dans des conditions économiques nouvelles, de donner aux travailleurs un horizon professionnel suffisamment prévisible. Ce constat ayant été fait, le rapport discute et écarte deux orientations. Il écarte d'abord, mais Alain Supiot en a parlé dans le cadre de cette université il y a quelques semaines, l'hypothèse de la recontractualisation du droit du travail. Au fond, il écarte ainsi l'hypothèse de la déréglementation. Et puis, le rapport écarte également l'idée d'une déconnexion des droits sociaux, de l'insertion des individus dans la sphère économique. Il écarte la thèse de l'allocation universelle qui serait donnée à tous sans contrepartie. Pourquoi ? Je crois que le rapport Supiot, pour dire cela, adhère à l'idée qui était déjà présente dans le rapport Boissonnat du Commissariat général du Plan 1995, idée suivant laquelle, pour une longue période, le travail demeurera le principal ressort d'intégration sociale. Jusqu'à un certain point, la fonction intégratrice du travail prend le relais de la nécessité de protéger les faibles pour fonder le droit du travail, ou du moins elle vient y ajouter un fondement supplémentaire. Pour donner à chacun une position sociale reconnue, le rapport propose, sur cette base, à l'Europe, de définir un état professionnel des personnes. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le rapport a été fait par des gens de sept pays. Donc, ça n'est pas une divagation française, c'est un texte sur lequel ont pu s'accorder les spécialistes de plusieurs disciplines et de plusieurs pays. Le rapport propose un état professionnel des personnes. Cette notion d'état professionnel des personnes est construite à partir de la notion française d'état civil des personnes. Chaque individu a un état civil, nom, prénom, âge, sexe, situation de famille. De la même façon, compte tenu des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par les textes internationaux, droit à l'emploi, droit à la formation professionnelle, chacun doit pouvoir s'inscrire dans un état professionnel. L'état professionnel, c'est une notion abstraite. Cette notion recouvre un certain nombre de règles qui ont pour fonction de permettre à l'individu, à chaque instant, de définir sa position au regard du travail. Alors, il faut maintenant que je donne quelques éléments plus concrets. Certaines de ces règles ont pour but d'assurer la sécurité des transitions professionnelles. C'est le moment où les gens sont plus vulnérables. Transition entre emploi, C'est notamment le droit du reclassement, transition entre formation et emploi, transition entre emploi salarié et travail non salarié. Il est de plus en plus fréquent que les individus changent d'activité au cours de leur vie professionnelle. Bref, il s'agit d'abord de mettre de la sécurité là où il n'y en a pour l'instant pas du tout. En agissant de la sorte, en donnant aux jeunes, aux salariés licenciés, en contrepartie du devoir de travailler que proclame, entre autres, la Constitution française, des droits nouveaux, en donnant un certain nombre de droits nouveaux à formation, au maintien d'un niveau minimum de revenus et de protection sociale, on facilite la coordination des phases successives de la vie professionnelle. Sans doute, la vie professionnelle sera-t-elle pour tout le monde de plus en plus fréquemment interrompue, non seulement pour les salariés d'ailleurs, mais aussi pour les non-salariés. L'époque où la vie d'une personne s'identifie à sa ferme ou à sa boutique est aussi une époque révolue. Et comme la vie professionnelle sera interrompue, hétérogène, à la fois parce que l'emploi à vie régresse, mais aussi parce que les aspirations des travailleurs se modifient, il faut trouver les moyens de permettre à l'individu de coordonner des phases nouvelles, de se former tout au long de la vie, d'insérer, plutôt que d'être mis en pré-retraite à 56 ans et 2 mois, des périodes d'activité bénévole dans sa carrière pour reprendre ensuite une activité, de pouvoir aussi consacrer certaines coupures à sa vie personnelle. L'objectif, au bout du compte, c'est de permettre à l'individu de planifier sa vie professionnelle, une vie qui sera de plus en plus, comme je viens de le dire, constituée d'une suite de périodes hétérogènes. La proposition du rapport Supiot n'a pas pour but de remplacer le droit du travail par autre chose. L'état professionnel surplombe le droit du travail. En cours de contrat, le salarié demeurera dans le cadre des règles actuellement en vigueur. Il englobe le droit du travail, si on veut, puisqu'il a vocation à s'appliquer aussi à des travailleurs non salariés. Concrètement, l'idée pourrait conduire, par exemple, à des adaptations du fonctionnement des services publics. Exemple très concret, à l'heure actuelle, pour les travailleurs non salariés qui ne sont pas très riches, il n'y a pas de formation professionnelle. Or, la Constitution française proclame que chaque individu a droit à la formation professionnelle. Eh bien, une application, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont envisagées, c'est bien sûr que le service public prenne en charge la formation professionnelle des travailleurs non salariés. Autre illustration des propositions du rapport, il pourrait conduire à développer certaines techniques contractuelles qui permettent de coordonner deux périodes de la vie professionnelle. Je voudrais donner deux exemples très concrets. Premier exemple, dans le contrat emploi jeune, il est prévu que le contrat de travail peut être suspendu pour que le jeune aille effectuer une période d'essai dans une autre entreprise. Voilà, l'idée de technique de coordination, c'est très abstrait, mais en réalité, il s'agit d'une idée concrète. C'est le procédé de la corde de rappel. J'ai un contrat en cours qui dure 5 ans, mais je peux m'en aller avant la fin pour un mois, deux mois, pour essayer autre chose. Et si ça marche, bien sûr, je m'en irai, parce que vraisemblablement, ça sera mieux payé. Et si ça ne marche pas, je reviens dans mon emploi initial. Et on a d'assez nombreux exemples de cette technique dans le Code du travail. Un autre peut être cité, c'est le congé de création d'entreprise. Un salarié qui a une certaine ancienneté, à l'heure actuelle, c'est dans le Code du travail, peut dire à son employeur « j'ai le droit de partir en congé pendant un an pour essayer de créer mon entreprise, mon contrat n'est pas rompu, et puis de deux choses l'une, où ça marche, vraisemblablement je ne reviendrai pas, où ça échoue, et j'ai le droit de reprendre mon emploi dans l'entreprise ». Une autre idée technique qu'on trouve dans le rapport Supiot et qui est intéressante et qui intéresse beaucoup les collègues étrangers, c'est l'idée de droits de tirage sociaux. Alors c'est un terme un peu barbare, il faut l'expliquer, ça correspond entre autres à quelque chose qui se trouve déjà dans le Code du travail et qu'on appelle le compte épargne-temps. Le compte épargne-temps, l'expression est construite à partir du compte en banque, mais au lieu d'épargner de l'argent, on épargne un droit à rémunération différé. Par exemple, j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai droit à un repos compensateur, au lieu de prendre mon repos, je le mets sur un compte épargne-temps. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, lorsque je voudrais me livrer à telle ou telle activité, prendre un congé qui ne correspond pas au congé payé, eh bien, mon employeur me paiera toujours en tirant sur mon compte épargne-temps. Alors ce compte épargne-temps, on pourrait penser que c'est une abomination française, mais j'ai pu vérifier il n'y a pas très longtemps qu'en fait ça se développait dans tous les pays comparables à la France. J'ai organisé un colloque avec des collègues du nord de l'Europe et c'était en anglais. Et comme je voulais parler du compte épargne-temps, je me suis cassé la tête un certain temps pour essayer d'imaginer ce que le traducteur pourrait bien dire en anglais pour traduire l'idée. Puis on en a discuté un peu. Et le premier collègue qui devait parler, c'était un Norvégien. Et curieusement, dans les 3 premières phrases de son intervention, il a parlé du compte épargne-temps en Norvège. Donc finalement, l'espèce d'improvisation de traduction a servi à tout le monde, puisque dans tous les pays d'Europe, cette idée est plus ou moins présente. Pourquoi ? C'est à cause de l'individualisation des horaires. À partir du moment où les salariés n'ont plus d'horaires collectifs, il devient très fréquent que certains soit en retard et d'autres en avance par rapport à ce qu'ils doivent à l'employeur. Donc on est obligé de créer une sorte de compte primitif dans lequel on inscrit que celui-ci doit travailler 3 heures de plus la semaine prochaine et que celui-là a travaillé 3 heures de trop. Et à partir du moment où on a créé ce type de compte, c'est très tentant de généraliser, de dire pourquoi ne pas créer quelque part un droit à rémunération différée, où on reporterait non pas d'une semaine sur l'autre, mais on reporterait à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Et le compte épargne-temps, le droit de tirage social, si ça se développe, ça peut servir à financer, par exemple, 1 an de congé pour activité personnelle, 1 an de formation qui, pour des raisons diverses, n'a pas pu être prise en charge dans le cadre des dispositions en vigueur. Voilà des exemples, mais je ne peux naturellement pas tout développer. Il s'agit essentiellement, vous le voyez, d'améliorer la situation individuelle du salarié. Or, tout au long de ce qui précède, j'ai essayé de montrer que la faiblesse du contrôle social peut vider de leur contenu tous les droits individuels que l'on imagine. Alors, il faut que je termine cette intervention en essayant de trouver des raisons d'espérer du côté d'un renforcement du contrôle social, donc du côté des rapports collectifs de travail. Et des raisons d'espérer, j'en ai trouvé 2, ce sont 2 remarques, l'une est moins importante que l'autre. L'une est, en tout cas, moins bien engagée. La première idée, celle que je dis moins importante, en fait c'est simplement qu'elle est plus loin d'une réalisation, c'est l'idée d'un développement de la négociation territoriale que l'on trouve dans le rapport Supio. Je crois que cette idée est très importante si on veut augmenter le contrôle social dans les petites et moyennes entreprises. Parce que si on revient aux origines du droit du travail, aux origines, qu'y avait-il ? Il y avait des usages locaux. Et un usage local, qu'est-ce que c'est ? C'est le comportement collectif adopté par un ensemble de petits patrons et un ensemble de salariés. On voit bien que le petit employeur qui ne trouve aucune légitimité aux règles qui viennent de l'État, qui viennent de la branche, pourrait par contre se sentir très contraint par une règle élaborée dans la ville, au niveau local, entre l'union locale syndicale, par exemple, et l'organisation patronale. Et par ailleurs, on voit bien aussi, mais je n'ai pas le temps de le développer, que compte tenu de l'individualisation des horaires, la négociation collective locale s'imposera parfois pour coordonner les rythmes des services publics et les rythmes de la vie économique. L'individualisation des horaires est en train de mettre en crise dans certains endroits les transports et l'école, parce que les transports et l'école étaient organisés pour des salariés qui rentraient tous à l'usine en même temps, sortaient tous en même temps. Donc il y a là un objet de négociation très développé dans certains pays, comme en Italie. Deuxième remarque, celle-là est plus proche, je crois, d'une réalisation qui donne des raisons d'espérer. Je crois qu'il faut prendre en considération la prise de position récente de la CFDT en faveur du passage d'une représentativité minoritaire à une représentativité majoritaire. Cette position rejoint une déclaration antérieure de la CGT. Dans la situation actuelle, c'est une situation qui est née de la guerre froide. À l'époque, la CGT était très nettement dominante et on voulait maintenir en vie des petits syndicats peu représentatifs. Dans la situation actuelle, un syndicat minoritaire, à condition d'être représentatif, peut signer une convention collective. À condition d'être représentatif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour être représentatif, il suffit qu'une section syndicale soit affiliée à l'une des 5 grandes confédérations représentatives au niveau national. Donc, encore plus concrètement, dans une usine à Tours où il y a 1000 salariés, 2 salariés qui ont une carte force ouvrière peuvent signer une convention collective qui engage les 1000. Automatiquement, ils sont représentatifs. Eh bien, c'est cela que la CFDT, après la CGT, remet en cause. Et c'est ce système qui avait été résumé par un de mes collègues avec cette formule « Tous les syndicats étant représentatifs, aucun ne l'est ». Parce que la représentativité minoritaire dévalorise l'audience et l'implantation syndicale, puisque le fait pour un syndicat d'avoir des adhérents nombreux ou de ne pas en avoir ne crée, pour ainsi dire, plus aucune différence. Ce serait donc un premier pas, si l'on veut renforcer le contrôle social, que de donner suite à cette demande. Et j'ajoute, pour terminer 2 phrases, il est, à mon avis, peut-être plus intéressant que le quinquennat de savoir si les partis politiques qui sont en ce moment en train d'affûter leur programme vont, ils devraient le faire, parce que c'est vraiment la raison, saisir cette très importante ouverture qui est faite par les 2 syndicats majoritaires. Et dernière phrase, le patronat, s'il souhaite vraiment refonder le droit du travail en donnant plus de place aux accords négociés, devrait aussi soutenir cette demande, car sans doute est-il souhaitable de rééquilibrer la loi et la négociation collective. Mais pour que l'opinion accepte un rééquilibrage entre la loi et la négociation collective, il faut avoir des syndicats forts. Dans un pays comme la France, où l'opinion ne souhaite pas la déréglementation, on ne peut pas avoir à la fois une loi faible et des syndicats faibles. Et par conséquent, si la thèse d'une négociation avec les syndicats est sérieuse, alors Le patronat doit accepter les mesures qui vont dans le sens des syndicats forts, mais peut-être qu'en réalité, ce qui a toujours été le cas depuis l'origine des temps, il est en train de demander à l'État de prendre des mesures, auquel cas il trouvera plus avantageux de continuer à disposer de partenaires peu représentatifs, mais avec qui on peut signer quand on en a besoin. Je vous remercie.
Je me demandais l'évolution du droit du travail n'était pas corrélée au taux de chômage. Je m'explique. Aux États-Unis, j'ai lu que des grandes entreprises, en particulier les entreprises de construction automobile, garantissaient à nouveau l'emploi à vie, que IBM donnait des PC à tout aux employés, etc., etc. Il se trouve que les États-Unis sont en avance par rapport à nous. Ils sont depuis 10 ans sortis de la crise. Ils ont un taux de chômage de 4 ou 4,5%, alors que nous, on a un taux de chômage de 10%. Notre taux de chômage correspond à l'état du droit du travail ici. Et le droit du travail tel qu'il est en train de se construire maintenant aux États-Unis me semble correspondre au taux de chômage tel qu'il est aux États-Unis. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est... pendant toute la crise, le patronat a attaqué le droit du travail. Le SMIC, les horaires, les conditions de travail, etc., etc. Il est arrivé aujourd'hui... le droit du travail par rapport à ce qu'il était il y a 25 ans n'a plus rien de comparable. Je me demande si le point final à cette destruction du droit du travail qui protège les communautés n'est pas l'individualisation, la flexibilité qui amène à l'individualisation et donc le remplacement du droit par le contrat. Le droit protégeant les communautés et le contrat étant un contrat entre le patron et l'employé individualisé.
Ok, merci.
Oui, allez-y.
Oui. Je voudrais répondre au moins à la première question. Bien entendu que vous avez raison, que le droit du travail évolue en fonction du taux de chômage. Je ne pourrais pas nier que ça soit un facteur. Cela étant, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'avec des difficultés économiques identiques, des pays comparables avaient adopté des solutions très différentes. Et au fond, mon idée, c'est que dans une situation où le rapport de force n'était pas favorable aux salariés à cause du taux de chômage, les pays du nord de l'Europe, bon an mal an, ont, c'est à peu près évident, mieux fait que les États-Unis, et, contrairement à ce qu'on pense, ont aussi mieux fait que la France. Parce que nous n'avons rien changé à notre droit, mais nous ne l'appliquons plus. Finalement, c'est l'épuisement du modèle où tout le droit vient de l'État et où il n'est pas relayé dans l'entreprise. Aux États-Unis, il y a une catégorie qui n'existe presque pas en France, et qui est importante, à tel point qu'on a mis en place des systèmes entiers d'aide sociale pour cette catégorie. C'est la catégorie des « working poor ». Parce que le salaire minimum américain doit être, à l'heure actuelle, aux environs de 6 dollars. 6 dollars sans charge, puisque, à part quelques taxes, il n'y a pas de système de sécurité sociale pour les salariés, pour les personnes de moins de 65 ans aux États-Unis, sauf si la convention d'entreprise le prévoit. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de la situation américaine, parce que cette situation, aujourd'hui, me paraît marquée par une extrême hétérogénéité. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 13% de syndiqués aux États-Unis. Ça veut dire que dans 13% des entreprises, on est syndiqué à 100%. Et que dans tout le reste, il n'y a pas un seul syndicaliste. Puisque le système américain, c'est qu'on vote à la majorité pour savoir si on a un syndicat ou pas. Et une fois qu'on a voté à la majorité, tout le monde est plus ou moins obligé de se syndiquer. Donc, vous voyez que c'est contrasté par définition. Surtout si vous ajoutez que dans certains États américains, par exemple au Minnesota, dans le Nord, il y a du droit du travail. Et que par contre, dans les États du Sud, il n'y en a pas. Donc, le taux de chômage américain, avec tout ça, il ne veut pas dire grand-chose. Parce que... Il recouvre à la fois des salariés, vous avez raison, dont la situation est en train de devenir très bonne, et qui obtiennent soit par le contrat, soit par la négociation collective, confère la récente grève chez Boeing, des conditions très bonnes. Et puis dans ce taux de chômage, vous avez aussi des gens qui sont
en dessous du seuil de pauvreté et, d'après les critères français, payer très en dessous du salaire minimum. Et donc, auquel l'État verse des subsides malgré qu'ils travaillent, parce qu'on considère que leurs revenus ne sont pas suffisants pour permettre à leur famille de vivre. Vous voyez que c'est une forme de disparition du chômage qui ne peut pas être pour nous un objectif. Oui, alors, si vous me permettez, sur l'évolution, elle va aussi dans le sens de l'hétérogénéité. C'est-à-dire que je ne vois pas de progrès pour la catégorie la plus basse des salariés américains. Et par contre, il est bien clair qu'il se produit en ce moment des progrès très importants pour la catégorie des salariés dont la main-d'œuvre est recherchée sur le marché du travail. Donc la diversification s'accroît aux États-Unis. Et il n'est pas inévitable qu'elle s'accroisse en Europe. Quant au contrat, bien ma foi, c'est une question très générale. Je crois que dans ce domaine, les solutions sont quand même très largement tributaires de l'opinion. Et l'opinion française, c'est que si on s'en remettait uniquement au contrat, le résultat ne serait pas satisfaisant. Et puis, il y a aussi un facteur objectif qu'il faut prendre en considération, c'est que, au bout du compte, on n'a pas de preuves très sérieuses que les pays du nord de l'Europe, avec leur système, aient des résultats économiques beaucoup moins bons que des pays comme les États-Unis. Si on faisait abstraction, évidemment, on ne peut pas le faire, de la réunification allemande, le système allemand a très bien marché sur le plan économique, même s'il connaît des difficultés. Donc, l'arbitrage entre la suppression de toute loi et le maintien d'un niveau de législation important, on ne peut pas le régler comme ça, parce qu'au fond, c'est tellement ancré qu'on n'y peut rien. La preuve, c'est que les gouvernements, depuis 25 ans, n'ont pas déréglementé en France. Et même, on pourrait se demander pourquoi, avec un tel taux de chômage, le droit du travail a si bien résisté.
Madame, tournez votre micro. Oui. Merci.
Je dois dire que j'étais choquée par la façon dont vous avez traité le harcèlement moral, hein, ou psychologique. Parce que j'ai l'impression... Bon, j'ai participé à l'élaboration du projet de loi contre le harcèlement par M. Hage, député communiste. Bien que même Aubry l'ait demandé, aujourd'hui, c'est mis au rancard. Et j'ai l'impression, c'est parce que, justement, des gens comme vous, enfin, qui pourriez aider à trouver des moyens, justement, à convaincre, font l'inverse, comme d'ailleurs Jean-Pierre Le Goff dans un article récent dans Le Monde. Or, je suis très choquée parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas pris en compte de ce que c'est dans une société quand les gens sont mis dans des situations où leur dignité et le respect dû à la personne humaine sont maltraités de la manière dont actuellement 9% de la population est traitée directement. Et n'en parlons pas des gens qui sont témoins de ce type de comportement et qui ont, et cela a des répercussions également sur eux. Dire qu'il ne faut pas de loi, parce que c'est ça qui circule, hein, qu'on n'a pas besoin de loi puisqu'on a suffisamment d'articles. Moi-même, je l'ai subi et j'ai bien vu que les juges n'en tiennent absolument pas compte, toutes les preuves qu'on leur apporte, dans la mesure où il n'y a pas de loi, eh bien, ils ne se sentent pas obligés de motiver la raison pour laquelle ils n'en tiennent pas compte. Donc je trouve ça extrêmement grave. Et la façon dont vous l'avez traité, je dois dire, moi j'étais venue en espérant qu'on n'avait pas traité ça à la légère.
Merci.
Alors j'aimerais...
Monsieur Baudry, de toute façon, il est normal qu'il y ait du désaccord sur un sujet qui comporte par nature du désaccord. Je n'ai pas dit, d'ailleurs je n'ai pas pris position même sur la question d'une loi. Ce que j'ai dit, et ça je crois que c'est vrai, c'est que le développement des actions sur ce fondement était un signe pathologique et non pas un signe de santé. Pourquoi ? Je voudrais prendre une comparaison. Les recours au Conseil de prud'homme sont assez bien connus, assez bien étudiés. Ce qu'ils montrent, c'est que les recours au Conseil de prud'homme sont très majoritairement le fait de salariés de petites entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'on marche sur les pieds des salariés des grandes entreprises ? Non. Ça veut dire que dans les grandes entreprises, il y a plus de syndicats, il y a plus de délégués, et que donc... une partie des abus sont filtrés par la présence des délégués, la présence des syndicats. Donc, je ne suis pas en train de dire que le harcèlement moral, c'est bien. Je suis en train de dire que le fait que la discussion se présente sur ce terrain, c'est le signe de l'effondrement du contrôle social dans les entreprises. et que par conséquent la solution ne se trouve pas dans la construction de catégories de type droit civil, de recours de ce genre, mais dans le renforcement du contrôle social. La véritable décision à prendre, c'est comment peut-on faire pour que dans les entreprises privées françaises, il y ait, comme en Allemagne, comme dans les pays scandinaves, une présence telle qu'une partie importante de cela soit évacuée autrement. Donc, c'est un signe de pathologie. Et l'objectif que doit se fixer le droit du travail, ça n'est pas de multiplier des recours de ce type, c'est de mettre en place des contrepoids, des contre-pouvoirs qui font en sorte que les abus n'ont pas lieu. Et nous savons que ça marche. Pratiquement, on sait.
S'il vous plaît,
de la Suède. Alors ne me racontez pas que ça marche, ça ne marche nulle part. La déliquescence des valeurs morales dans le monde fait qu'il n'y a pas un seul pays qui est épargné. Hein, et la France se situe assez dans un, enfin pas au top niveau, mais elle est bien bien située. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire que d'autres pays connaissent pas le phénomène puisque tout est parti de la Suède. Moi j'ai l'impression que vous ne connaissez pas le problème.
Voulez-vous réagir ? Une question, madame, là. Oui, allez-y.
Que peut-on penser du type de contrat de travail ébauché dans le rapport Boissonnat, donc inter-entreprise, inter-institution, qui permettrait une mobilité sans changer de statut ? Deuxième question, vous avez indiqué que la contractualisation nous préserverait peut-être de la déréglementation. Est-ce que ce n'est pas le contraire ? Et troisième question qui peut rejoindre un tout petit peu la préoccupation de madame, est-ce que vous pouvez développer un petit peu la notion de régression de la subordination ? Est-ce qu'il s'agit de dire que tous les travailleurs deviendront des travailleurs indépendants, moyennant quoi on leur demande des résultats ? Et Bernard Brune avait l'air de dire hier que l'émergence du harcèlement moral provenait tout simplement du fait que les gens n'avaient pas encore réagi par rapport à la notion d'indépendance, enfin aux nouvelles méthodes de travail qui leur imposaient simplement des résultats sans autorité. Ou est-ce que ça ne pourrait pas prendre la forme d'une certaine codification de la notion d'exercice du pouvoir, ce qui n'existe pas du tout apparemment dans le Code du travail, hein.
Oui, alors il y a trois questions et chacune est difficile. Alors la première, c'est le contrat d'activité au fond proposé par le rapport Boissonnat que vous évoquez. Je pense que l'une, mais ça n'est sans doute pas la seule, l'une des évolutions possibles, souhaitables, pour redonner de la stabilité à des rapports qui l'ont perdu, ça peut être qu'on mette en place des formes de contrats, effectivement, où plusieurs employeurs emploient en commun un salarié. La proposition du rapport Boissonnat était un peu plus riche que ça, puisqu'ils envisageaient de mettre en place un contrat où plusieurs employeurs, mais aussi des organismes de formation, mais aussi peut-être d'autres personnes morales, par exemple des établissements d'enseignement, contracteraient avec un salarié. Et donc ça ne concernait pas uniquement le travail, mais aussi la formation, la qualification, etc. Cela étant, nous avons un exemple qui existe, qui fonctionne bien dans l'agriculture et mal ailleurs, c'est le groupement d'employeurs. Et ça donne effectivement certains résultats. Les agriculteurs qui ont une tradition de coopération se groupent, c'est-à-dire ils créent une association à plusieurs pour recruter un salarié, et le salarié a un emploi à plein temps ou quasi à plein temps, alors qu'il travaille pour 4 ou 5 personnes. Donc s'il n'y avait pas le groupement d'employeurs, il aurait 3 ou 4 morceaux de contrat de travail à temps partiel. Donc je crois que c'est une voie d'évolution intéressante. Il faudrait avoir l'autorisation de l'expérimenter. Et à vrai dire, ceux qui ont demandé cette autorisation depuis 4 ou 5 ans ne l'ont jamais obtenue. Et donc c'est difficile d'aller plus loin sur une idée bien développée comme elle est dans le rapport Boissonnat tant qu'on ne peut pas du tout expérimenter. Pour ma part, je ne suis pas du tout favorable à la recontractualisation des rapports. Donc c'est pour ça que j'ai réagi en disant non, c'est pas ça. Ce que je pense, c'est qu'on peut dire à la fois qu'il faut un niveau élevé de législation et que par ailleurs, dans le Code du travail français, il y a de la législation en trop. Par exemple, dans la loi Aubry, on a réglementé la question de la définition de la semaine civile. On a même prévu que les accords collectifs pouvaient modifier la définition juridique de la semaine civile. C'est se moquer du monde. Ça, on ne devrait pas faire ça dans la loi. Je dirais même une chose, c'est une formule que j'ai déjà utilisée ailleurs, la prolifération de la réglementation est la forme française de la flexibilité. C'est-à-dire que, comme on n'arrive jamais à affronter les questions qu'on veut résoudre, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une loi avec des dérogations, etc. Et tout ça devient complètement incompréhensible, et à un certain moment, tout le monde fait n'importe quoi. Donc, il faut beaucoup de lois, je pense, il faut un droit du travail à base légale, mais la situation où une part importante de ce qui se fait sur le terrain est soit négociée, soit codéterminée, est sans doute préférable à la situation où la loi essaye de tout régler et où elle n'y parvient pas. Par exemple, en Allemagne, les horaires de travail sont codécidés entre l'employeur et le Betriebsrat. Bien, quand on écrit dans la loi « les horaires de travail sont codécidés », on a écrit une ligne et elle remplace 50 pages du Code du travail, qui essaye de dire comment les horaires doivent être, mais d'une façon qu'on ne respecte d'ailleurs pas et qui est extrêmement compliquée. Donc ça, c'est la difficulté de notre point de vue à nous. Nous avons une loi qui entre dans une infinité de détails et qui parfois, d'ailleurs, y entre mal. On peut trouver ça critiquable et en même temps être, par ailleurs, en principe, partisan d'un système législatif plutôt fort. Ce que j'ai dit sur les pays du nord de l'Europe, si ça tient, c'est parce qu'il y a de la loi. La loi allemande, elle n'est pas molle, elle n'est pas faible, mais à côté de ça, il y a le rôle des syndicats. Puis il y a l'idée, alors, quand on discute avec des collègues étrangers, par exemple sur les 35 heures, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent les syndicats n'en veulent pas parce que si c'est l'État qui fait la loi, ça ne sera pas assez favorable aux salariés. C'est ce que disent les Suédois, pardonnez-moi, c'est ce que disent aussi peut-être un peu les syndicalistes italiens qui ont finalement enterré le projet de 35 heures qui avait été un moment avancé. C'est l'idée très forte dans de nombreux pays que lorsque l'État fait la loi, elle n'est pas assez favorable aux salariés. Aussi parce que les juges sont des réactionnaires. Donc si on veut avoir un droit du travail qui serve le travailleur, il faut le soustraire à la main de ces gens qui font la loi et la jurisprudence. Il faut que ce soit les salariés eux-mêmes qui négocient dans un rapport de force avec le patron. C'est ça le vrai droit du travail. Alors, on recontractualise un peu, mais pour ça, il faut une base légale. S'il n'y a pas de base légale, eh bien, on arrive à la situation anglaise ou américaine, c'est-à-dire le syndicat est très vulnérable, et si on l'affaiblit de façon bien adaptée, bien ciblée, eh bien, le droit du travail s'effondre. Sur la subordination, moi, je ne crois pas du tout qu'on va voir la situation où tout le monde sera non salarié. Je crois qu'il y a un discours très idéologique sur la disparition des rapports de subordination. Je pense que la subordination est aussi forte, même si les modalités changent, qu'elle était autrefois. Donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout convaincu. Par contre, il est vrai que dans certains secteurs de l'activité, il y a des transformations des modes d'organisation économique qui donnent un espace réel à certaines professions non salariées. Donc il y a un certain regain du travail non salarié, mais il est très faible, c'est de l'ordre de quelques milliers ou de quelques dizaines de milliers de personnes, alors que par ailleurs, le nombre de salariés continue à croître. Donc ce que je pense, c'est que la thèse de la disparition du travail indépendant est une thèse fausse, que durablement, il y aura des travailleurs non salariés et dont certains sont des travailleurs dépendants, donc pour eux aussi, il faut du droit social.
Une question là.
Oui, je souhaitais poser une question générale. Je suis en première année de BTS, donc je ne connais pas très bien tout ça. Mais je souhaitais savoir quels étaient les problèmes de droit qui étaient le plus souvent soulevés en matière de contentieux du droit du travail.
Oh, la réponse est, je crois qu'elle est... spontanément, on vous répondrait, c'est le problème du licenciement. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, souvent... Les problèmes qui sont soulevés ne sont pas uniquement ceux du licenciement, mais ils sont soulevés au moment du licenciement. C'est-à-dire que le salarié n'est pas content de son employeur, mais aussi longtemps qu'on ne le licencie pas, il ne fait pas de procès parce qu'il ne veut pas être licencié. Et le jour où il est licencié, dans la mesure où parfois la prescription est assez longue, il vient au conseil des prud'hommes avec la liste des courses, c'est-à-dire l'ensemble des raisons qu'il a de se plaindre. Donc vous voyez, je pense qu'un praticien, un avocat vous dirait le problème que je vois le plus, c'est le licenciement. Mais en fait, il y a aussi parfois, il y a aussi de très nombreuses demandes, par exemple autour de l'application des taux de salaire, du paiement des heures supplémentaires, des choses comme ça. C'est donc, et puis bien sûr, tout ça peut s'inverser avec le changement de conjoncture. Dans les années 60, le problème qui posait problème, c'était la protection des délégués du personnel et le salaire. Pourquoi ? Parce que on manquait de main-d'œuvre, donc l'emploi n'était pas très menacé. Et donc, ce qui faisait conflit, c'était comment est-ce que les salariés vont se grouper pour obtenir des augmentations de salaire et comment celles-ci sont exécutées. À l'inverse, quand on est rentré en période de crise, le contentieux s'est déplacé sur le terrain du licenciement.
Deux dernières questions très rapides. Monsieur Lahaut.
Oui, s'il vous plaît, parce que je suis surpris que vous ne faites pas de lien entre l'évolution du droit du travail et l'OMC. Car au nom de la libre concurrence, l'OMC va faire évoluer considérablement ce droit du travail au XXIe siècle et qui est favorisé les multinationales qui la soutiennent et qui veulent d'ailleurs être au-dessus des États. Il est à craindre que ce système s'appuie en France non seulement sur un faible taux de syndicalisation, d'ailleurs, dont vous avez bien parlé, mais également sur la fracture sociale qui est bien présente en France. Alors, à votre avis, quelles solutions possibles pour éviter un recul des acquis sociaux? Et puis, de plus, pour reprendre votre expression, la suite de périodes de travail hétérogènes peut-elle vraiment aboutir à une retraite confortable?
Alors, les principales opérations de déréglementation, elles ont eu lieu avant que le sigle OMC existe. Les grandes déréglementations, c'était le début des années 80, c'était Reagan, Thatcher, et puis les mesures qui ont été prises en France, dans tous les pays, au fond, dont j'ai parlé à propos des contrats précaires. Donc, voilà, comment y remédier? Je pense qu'il y a une course de vitesse qui est engagée entre l'élaboration, qui n'est pas certaine, d'un droit social européen et la remise en question par les conditions économiques du droit de participation aux salariés dans l'entreprise qui existe dans les pays du nord de l'Europe. C'est pourquoi j'ai dit que la France et l'Angleterre jouaient le rôle de cheval de Troie. C'est une idée qu'on trouve d'ailleurs dans des textes qui ont été rédigés par certains fonds de pension américains. Il faut passer par la France pour faire sauter la cogestion allemande. Donc, ma vraie réponse à moyen terme, je me suis concentré sur ce qui est à court terme à la fin de mon exposé, mais ma vraie réponse à moyen terme, c'est qu'il est très souhaitable que l'Europe se dote d'un régime de la participation des salariés dans la vie des sociétés, qui donne à ceux-ci de véritables pouvoirs. Le problème du droit français des comités d'entreprise, c'est que les comités d'entreprise ont le droit d'être consultés sur tout, mais ne peuvent décider pratiquement sur rien. Et donc, leur rôle réel est très faible. Est-ce que nous ferons ce progrès en Europe? Ça n'est pas sûr. Et si nous ne le faisons pas, je ne suis pas certain que les pays du nord de l'Europe pourront maintenir leurs droits, parce qu'effectivement, ce droit déplaît. Mais s'il fallait faire quelque chose, je dirais, dans un espace économique important comme l'Europe, qui peut se payer le luxe d'un véritable droit social, avoir des règles suffisamment communes pour qu'il n'y ait pas de dumping social d'un pays à l'autre.
Une dernière toute rapide question.
Très rapidement, l'année sabbatique, est-ce qu'elle appartient aux droits de tirage sociaux?
Alors, oui et non.
J'ai pas tout à fait fini. Répondez-moi ça rapidement.
Il existe donc dans le Code du travail, à côté du congé création d'entreprise dont j'ai parlé, un congé sabbatique qui obéit à peu près aux mêmes règles. Mais il s'agit du congé, c'est-à-dire le droit de quitter son travail et de revenir après. Ça ne comporte pas, pour l'instant, de financement en droit français. Vous savez très bien que si on part en formation, on peut, dans le cadre du congé individuel de formation, être rémunéré pendant qu'on est formé. Mais pour l'instant, si on part en congé sabbatique, on n'est pas rémunéré. Sauf, et là je viens à votre question, sauf si on a un compte épargne-temps suffisamment abondé, auquel cas, on pourrait juxtaposer le congé et le financement. Le droit de tirage social, c'est plutôt le financement que le congé. Mais il faut être honnête, pour l'instant, le compte épargne-temps commence à se développer. Et il y a une dérive qu'on voit tout de suite, c'est que jusqu'à présent, c'était très souvent utilisé comme allongement des pré-retraites. On donne un compte épargne-temps aux salariés âgés et ça permet de les faire partir un ou deux ans plus tôt lorsqu'on veut faire un licenciement économique puisqu'on a de quoi financer un congé anticipé. Ça a été souvent ça, mais ça pourrait être autre chose, et notamment dans des conditions économiques un peu différentes.